Bonjour Raymond Richard au micro. Bien, nous nous retrouvons pour l'émission Témoins. Et les témoins d'aujourd'hui, ce sont Monsieur Jean-Claude Pedro et le Père Bernard Devers. Et tous les deux, au nom d'Habitat et Humanisme, Eure-et-Loire. Mais Monsieur Devers, c'est vous qui avez fondé Habitat et Humanisme. Alors parlons un peu de ce que c'est. Et puis bon, bien, on entendra aussi ce qui se fait en Eure-et-Loire. Alors Habitat et Humanisme.
Alors d'abord bonjour et merci en fait de marquer un intérêt pour l'association Habitat Humanisme. Elle s'est créée il y a 31 ans. Il faut bien un berceau à toute chose. Donc le berceau d'Habitat Humanisme était la ville de Lyon avec le soutien du cardinal de Courtrai. Cette association, elle a deux intuitions. Comment réconcilier l'économique et le social? Comment réconcilier l'humain et l'urbain? Et comme nous croyons qu'en fait... La parole, pour pas qu'elle soit vaine, il faut que ce soit une parole de levain qui fasse se lever les choses et permettre à des hommes et des femmes de se relever. Eh bien, c'est une parole qui est une parole actée, pas de discours, en fait, sauf ici. Mais j'espère que ce ne sera pas un discours, ça deviendra une parole. Faire en sorte que, de trouver des réponses pour des personnes qui sont en situation de grande difficulté, de fragilité, par rapport à la question du logement. Et le logement, naturellement, c'est le syndrome, en fait, de la pauvreté. Quand il n'y a pas de logement, il y a vraiment des difficultés absolument majeures. Donc, apprenons à refuser ce qui est de l'ordre de l'inacceptable. Et dans cette perspective, donc, nous avons créé des moyens qui ne sont pas les nôtres, mais des hommes et des femmes qui accompagnent le mouvement Habitat Humanisme, qui investissent dans la solidarité, c'est plus qu'une solidarité, c'est en fait une fraternité dans une de nos foncières qui s'appelle Habitat Humanisme ou Entreprendre pour humaniser la dépendance pour les personnes âgées. Et à partir de cet argent, finalement, si on prend l'image de l'immeuble, eh bien, ces fonds propres, ça représente en fait les fondations. Et à partir de ces fondations, on va auprès des banques et notamment la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir demander des financements, ce qu'on appelle le prêt locatif. Aider d'insertion. On va obtenir en fait aussi souvent des collectivités locales, des organismes du 1% en fait aussi des financements. Et de là, donc en fait, l'effet de levier de ces fonds propres permet en fait de pouvoir réaliser des logements. Avec 40 000 euros de fonds propres, eh bien, c'est une famille logée.
Alors quand vous dites c'est une famille logée, j'imagine que Habitat Humanisme, vous les choisissez comment, les personnes que vous logez ? Et parce que c'est un logement aussi pour les personnes pauvres. Mais en même temps, vous voulez qu'elles soient en relation avec d'autres. Alors c'est ça aussi qui me paraît intéressant, parce que souvent, en tout cas, dans beaucoup de villes, il y a les quartiers. Et on est dans un quartier et pas dans un autre. Il y a le phénomène de ghetto.
Alors on cherche à éviter cette solution sur le département d'Eure-et-Loire, mais comme sur toute la France. Donc on cherche à mélanger un peu les populations auxquelles nous nous adressons. Suivant les situations, puisque par exemple nous accueillons des personnes qui ont eu des accidents de la vie, des faillites, des gens qui ont fait faillite, ça arrive malheureusement, ça arrive également à des familles qui ont explosé, ça arrive également à des femmes qui sont en situation difficile et que nous devons accueillir.
Accident de la vie, tout fait accident que d'un de la seul vie. Coup on peut basculer.
Alors,
et qu'il faut être
également des réfugiés, soutenu. Des réfugiés, on en accueille des réfugiés, mais qui sont en règle, hein. Ça c'est une chose fondamentale au niveau du droit. Et nous accueillons ces familles, ont toujours un bénévole ou une bénévole qui les accompagne. C'est un principe fondamental de l'accueil que nous faisons.
Parce que par exemple, ce genre de structure, il y a par exemple Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est aussi les choses qui existent. Et alors là, Habitat Humanisme aussi, c'est connoté chrétien, catholique. Or, j'ai cru comprendre, quand vous êtes venu me présenter cette association, que c'était laïque. Alors racontez-nous un peu, parce que ça, je trouve ça intéressant, justement, que l'Église, là, aujourd'hui encore, elle soit levier de choses qui font bouger les lignes pour aujourd'hui. Je trouve ça vraiment passionnant.
Alors, c'est vrai que je suis prêtre, je suis prêtre depuis bientôt 30 ans. Avant, j'avais une activité professionnelle qui était justement dans le monde de l'habitat. Et le cardinal, en fait, il m'a dit, voilà, je trouve que c'est intéressant que pour l'Église, en fait, on marque une attention sur la question du logement. Et il a bien saisi que, finalement, s'il me demandait d'arrêter, en fait, mon activité professionnelle, j'aurais plus après, ensuite, les relations qui m'auraient permis de continuer. Donc, en fait, j'ai fait mes études à la faculté, mais sans faire de séminaire. Hein, et puis, il m'a ordonné prêtre 7 ans plus tard, etc. Et pendant ce temps-là, donc, j'ai mis en place, en fait, j'ai fait transformer ma société de promotion qui a permis la création, en fait, d'Habitat Humaniste, qui est une véritable association. Et le cardinal, il m'a dit, voilà, il y avait le choix de dire, est-ce qu'on en fait une structure confessionnelle? Il a dit, non, on n'en fait pas une structure confessionnelle. On en fait, en fait, une structure tout à fait ouverte, de celle à partir de laquelle on va accueillir des chrétiens, on va aussi accueillir des personnes qui ont d'autres références culturelles et spirituelles. Il s'agit en fait de travailler sur une approche de la diversité. Le mot de la diversité, c'est vraiment le maître mot d'Habitat Humanisme. Nous ne mettons surtout pas, par exemple, des populations pauvres dans des quartiers pauvres, mais plutôt dans des quartiers précisément, parfois aisés, même d'ailleurs, en fait, en tout cas, dans des quartiers toujours qui sont des quartiers socialement équilibrés. L'homogénéité, c'est finalement aussi, d'une certaine façon, c'est une forme d'injustice. Pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait une vie en vérité, il faut aussi s'ouvrir à la différence. C'est précisément toute l'approche d'Habitat Humanisme.
Alors, je voudrais vous demander, en étant un peu ironique, ça se fait quand même pas facilement, donc, de mettre des populations pauvres dans le 16e, en caricaturant.
Alors, je vais vous donner un bon exemple, en fait, voilà. Donc, c'est pas dans le 16e, mais c'est dans le 6e arrondissement de Paris. En fait, on construit un immeuble pour des populations qui sont en grande fragilité, et à côté de cet immeuble, il y a un hôtel de 4 étoiles. Et donc, vient le temps, au mois de décembre, en fait, de l'inauguration de notre maison. Et l'hôtelier, en fait, la direction de cet hôtel, apprend qu'on va faire cette inauguration et nous dit, est-ce que vous voulez pas, nous on vous propose de faire l'inauguration à l'hôtel. On dit, mais non, on n'a absolument pas les moyens financiers, etc. Ah, mais nous dit l'hôtelier, mais c'est pas ça. Je vous invite et j'inviterai des clients. C'est tellement important de voir la différence. La vie, c'est cela, quoi.
Ah oui.
Et donc, en fait, voilà. Donc, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, il y a quand même précisément, on dit que le corps social, il est malade. Bien sûr que le corps social, il est malade, parce qu'à force de le blesser en regardant toujours les choses qui sont difficiles. Mais ce corps social, s'il est malade, en tout cas, il faut le guérir. Et la guérison de ce corps social, c'est précisément des hommes et des femmes qui ont le sens de l'autre, le goût de l'autre. Finalement, n'est-ce pas cela l'espérance?
On va faire une pause musicale avant de poursuivre. Toujours sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Témoins, avec Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, et Jean-Claude Pédreau, président d'Habitat et Humanisme en Eure-et-Loire. Alors tout à l'heure, vous évoquiez réconcilier l'économique et le social. Et puis aussi, j'ai entendu l'intergénérationnel. Moi, j'aimerais aussi que vous nous parliez de cet intergénérationnel, parce que je trouve que c'est une expérience, que quand on passe à la retraite, d'un seul coup, on passe d'un statut à plus de statut, et que finalement, il n'y a plus de reconnaissance, et que plus on vieillit, plus les personnes sont isolées. Et puis d'un autre côté, on voit des jeunes qui sont... Alors finalement, cet intergénérationnel, ça peut intéresser nos auditeurs. En tout cas, ça m'intéresse, tiens.
Alors, vous avez employé un mot qui est un mot tout à fait juste. En fait, arrive le moment où on va quitter la vie professionnelle, on va se trouver en retraite, on va se retrouver en situation de risque de retrait. Et vous dites, finalement, alors, il n'y a plus de reconnaissance.
Plus de reconnaissance, plus de statut. Enfin, et souvent, on s'aperçoit que c'est le travail qui donne ce statut.
Tout à fait. Alors, il s'agit bien précisément de reconnaître pour pouvoir faire naître. Hein. La reconnaissance, c'est toujours un temps de naissance. Et donc, de dire à des personnes, voilà, vous avez une expérience de vie. Surtout, on a besoin de vous. le nombre de jeunes, jeunes filles, etc., de gens un peu plus mûrs, etc., mais qui ont besoin aussi de vivre des rencontres. Vous avez quelque chose à vivre dans notre société. Vous avez quelque chose à nous apporter. Et sur Habitat Humaniste, bien sûr qu'en 30 ans, les choses ont évolué. Qu'est-ce qui nous a fait évoluer? C'est la rencontre de l'autre, précisément. C'est la reconnaissance de l'autre. Eh bien, on est passé, en fait, de ce désir d'un certain vivre ensemble à un faire ensemble. Et la maison intergénérationnelle, c'est précisément le lieu, en fait, de ce faire ensemble. La personne d'un certain âge va se retrouver en fait dans cette maison. Elle aura un appartement, bien sûr, qui est son appartement. Et puis on va mettre à côté des populations plus jeunes et on va demander en fait à ces populations plus jeunes en fait aussi de faire en sorte qu'il y ait un lien, qu'il y ait un prendre soin. Mais la personne âgée, elle n'est pas simplement d'une situation en situation passive. Elle va aussi assurer un prendre soin par rapport à ces populations plus jeunes. C'est aussi le temps de l'écoute, c'est le temps d'un partage, etc., d'une vie. Vous vous rendez compte qu'une personne qu'on dit âgée, enfin bon, mais pas au moment de la retraite, mais un petit peu plus tard, mais je veux dire, les gens qui ont 80 ans, 90 ans aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu sur ce siècle extraordinaire, ce siècle de mutation, etc. Mais il faut qu'ils nous parlent de tous ces changements, en fait, finalement, ils nous enrichissent à partir de ce qu'ils ont vécu. Et voilà, c'est, au fond, cette société, elle ne va grandir que parce qu'on découvre que l'autre aussi, il nous enrichit et donc on a besoin de l'autre. Il y a un grand mot, c'est se prendre soin. Le prendre soin, c'est une approche de responsabilité. Alors moi, j'aime beaucoup ce mot de Paul Ricoeur. Il dit « L'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin. » Allez, soyons responsables et pour ce faire, prenons soin de l'autre.
Alors, en Eure-et-Loir, comment ça se... Donnez-nous un ou deux exemples, parce que là, le temps d'émission court, mais donnez-nous un exemple où se prendre soin, vous avez été témoin de se prendre soin et où cela même vous a peut-être ému.
Écoutez, on a été ému. Par exemple, on a une maison qui s'appelle la Maison de la Palombe, qui est à Drouet-sur-Drouette, près d'Épernon. Dans cette maison, on a accueilli 6 familles. Et nous, moi, j'étais particulièrement ému et ébranlé par une dame qui s'appelait Christine, qui dormait dans sa voiture et que l'association a pu loger à la Palombe et qui est restée 6 mois dans le logement et a trouvé un équilibre, un nouvel équilibre. Elle a pu trouver un emploi dans le midi, elle est partie dans le midi et au mois de décembre, au moment des vœux, elle a eu la gentillesse de nous écrire en nous remerciant pour tout ce qui avait pu être fait là-bas. Et il faut savoir que Christine, qui était une dame qui avait une cinquantaine d'années, était avec des jeunes femmes, et qu'elle a pu pondérer un peu, je dirais, l'impétuosité des jeunes femmes qui étaient là-bas avec leurs enfants et qui étaient seules.
Donc ça, là, il y a eu cette intergénérationnelle qui s'est jouée.
L'intergénérationnelle a joué complètement son rôle, avec des gens qui avaient des situations difficiles, délicates. Hein.
Et en se valorisant, respectant.
Oui, c'est-à-dire que finalement, je rebondis un peu sur ce que disait le père de Vert tout à l'heure. Les difficultés de l'un, qui n'étaient pas les mêmes difficultés de l'autre, et les deux, ça a pu faire quelque chose.
Les difficultés des uns et des autres amoindrissent celles des autres. Vous trouvez ça intéressant?
Ça, c'était quand même une parole très forte qu'a dit le père de Vert tout à l'heure, peut-être hors antenne, mais enfin, c'est quelque chose de fort. Et je trouve que c'est bien de voir les choses
Bernard
comme ça.
Bernard Devers, le mot de la fin pour les habitants d'Eure-et-Loir.
Agir pour ne point punir l'avenir.
Merci beaucoup. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir à vous.
Au revoir. Merci.
Merci bien.